Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Les salutations du Centre évangélique protestant Marseille-Saint-Loup, une église sœur qui se réunit donc dans la deuxième ville de France. Et aussi, c'était super de voir certains d'entre vous au congrès, avec toutes les assemblées en France. On a eu des 3 jours qui étaient extra, juste à côté. Vraiment, voilà, c'est bien de pouvoir se réunir comme ça. Merci beaucoup pour votre invitation, ça me touche. Certains savaient que j'étais dans les parages et ils m'ont demandé de venir partager. Alors je vais partager dans quelques instants un passage que j'ai très à cœur, que j'aime beaucoup, un de mes passages préférés. Juste avant, peut-être, je peux, pendant que vous êtes en train de chercher le passage que je vais partager avec vous, qui se situe dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, Genèse chapitre 32, je demandais l'autorisation de faire cette annonce. Vous voyez peut-être pas trop sur la diap, mais en fait c'est une vue de Jérusalem. Je vais organiser en novembre, du 12 au 19 novembre, un voyage en Israël. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, venez me voir et puis on pourrait... Il y a encore de la place dans le groupe, voilà. Alors, ce matin, le passage que je voudrais partager avec vous se situe donc dans Genèse chapitre 32. Et je le partage avec cette intention de vous encourager, de nous encourager mutuellement, donc encourager aussi ceux qui enseignent la parole dans cette église. L'Ancien Testament ne peut être compris qu'à la lumière du Nouveau. On appelle cela la prédication intertextuelle, si jamais vous voulez qu'on emploie vraiment un grand mot, mais je vous encourage vraiment, et j'encourage toutes celles et ceux qui étudient l'Ancien Testament, à étudier l'Ancien Testament et à essayer de le décrypter à la lumière du Nouveau Testament, parce que c'est ainsi qu'il s'explique pleinement. Et le passage que je vais prendre ce matin, eh bien, c'est un passage de l'Ancien Testament, donc très très connu, qui décrit une lutte mémorable. Certains d'entre vous pensez déjà peut-être savoir quel passage j'ai choisi. C'est le passage de cette nuit mémorable où Jacob se battit avec Dieu. Donc on va lire ensemble Genèse chapitre 32, versets 24 à 32. Et donc mon deuxième objectif ce matin, c'est de nous encourager dans des choses qui sont fondamentales, mais qui font vraiment notre vie chrétienne. Quelquefois, c'est bon de se rappeler, de se souvenir. Plein de fois dans la Bible, on nous demande de nous souvenir. C'est marrant quand même la mémoire. Au fur et à mesure que l'on vieillit, on s'aperçoit que la mémoire devient de plus en plus fragmentaire et qu'on se souvient des choses du passé. On a de moins en moins de mémoire de l'instant immédiat. Et je pense que le Seigneur, il savait ces choses-là et il nous a demandé de nous souvenir d'un événement très lointain. Vous savez, plusieurs fois, on a des petites phrases comme ça, « Souviens-toi de Jésus-Christ », par exemple, dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur, des fois, il nous demande de nous souvenir de quelque chose qui nous est arrivé. Et c'est un petit peu pour nous encourager à nous souvenir de ce qui nous est arrivé avec le Seigneur et aussi nous encourager à partager avec d'autres ce qui nous est arrivé avec le Seigneur. Quelquefois, de se rafraîchir la mémoire permet de pouvoir repartager avec d'autres comme si c'était quelque chose de frais et de nouveau ce qui nous est arrivé avec le Seigneur. Et donc, je vous demande maintenant de plonger avec moi dans ce texte qui est très beau et qui est un petit peu difficile aussi. Alors, dans une première partie, j'aimerais expliquer ce texte. Et dans une deuxième partie, essayer de trouver des applications pour nous aujourd'hui. Je choisirai 3 applications. On pourra peut-être en choisir plus, en prendre plus, mais je me limiterai à 3 applications. D'accord ? On va lire cette parole ensemble et que le Seigneur bénisse sa parole. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » En hébreu, Péniel veut dire « face de Dieu ». Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Super texte, hein ?
Ouais.
Et un petit peu difficile aussi, donc quelques explications avant de trouver peut-être des applications pour nous aujourd'hui. Lutte mémorable de Jacob qui lutta avec cet adversaire mystérieux. Un des tableaux ici le représente. Dans un coin, il y a son carquois et ses flèches. L'artiste a délibérément voulu représenter les armes de Jacob rendues complètement inutiles face à ce lutteur qui vient le défier pendant toute la nuit. Alors un petit mot sur le contexte. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées avant cette rencontre, ce combat entre Jacob et cet adversaire mystérieux. La première image que vous voyez, tout en bas, à votre gauche, est une scène qui est arrivée à Jacob 20 ans plus tôt. 20 ans plus tôt, Jacob était en train de fuir de sa maison maternelle, paternelle. Il a entrepris un grand voyage de 600 km à pied. Les marcheurs, ça vous dit quelque chose, ça veut dire beaucoup de jours. Et le premier jour, ou plutôt la première nuit, Jacob eut un rêve. Et c'est le fameux rêve de l'échelle de Jacob, ou des degrés de Jacob, où Dieu parle à Jacob, se révèle à lui, et lui explique plusieurs choses sur lui-même. Il est un grand Dieu transcendant, il est aussi un Dieu qui va marcher à côté de lui, il est un Dieu qui désire le bénir, etc., etc. Jacob a ce rêve, il se réveille. Oh, « Je ne savais pas que c'était la porte du ciel ici, » dit-il. Et il appelle cet endroit Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. 20 ans plus tard, Jacob retourne chez lui. Il retourne chez lui. Il était 20 ans plus tôt en train de fuir chez lui parce qu'il avait, on va dire, en bon marseillais, arnaqué son frère. Il avait volé à son frère le droit d'aînesse et lui avait volé aussi la bénédiction paternelle. 20 ans plus tard, il retourne chez lui. Et bien sûr, le problème de son frère est quelque chose qui revient à sa mémoire. Il envoie des messagers vers la maison et les messagers reviennent. Et lui dit, ton frère marche à ta rencontre avec une armée de 400 hommes. Ce petit détail donne beaucoup de frayeur à Jacob. Et donc Jacob resta seul. Il fait passer tout son camp à la rivière, le torrent de Yabok, et il reste seul. Et c'est pendant cette nuit où il est seul que se manifeste cet adversaire mystérieux avec lequel il va se lutter toute la nuit. Et c'est la scène que nous venons de lire. Voilà, ça c'était un petit peu le contexte. 20 ans entre ce rêve et cette lutte. Et c'est pourtant à cette lutte que Jacob, on va le voir tout à l'heure, change de nom. Ça, c'est pour le contexte. Alors, peut-être encore un mot d'explication sur l'identité des lutteurs. L'identité des lutteurs. C'est un petit peu comme un ring. Vous savez, dans un ring, que ce soit de la boxe ou du catch, souvent, l'arbitre, il dit « Et à ma droite, et à ma gauche, etc. » Si on pouvait un petit peu les présenter, ces deux lutteurs. Alors, à ma droite, qui c'est qu'on a ? Ben, à ma droite, on a la personne qui lutte contre Jacob. Et qui est cette personne qui lutte contre Jacob ? On pourrait peut-être ouvrir un petit débat et demander qu'est-ce que vous en pensez. Parce qu'il y a beaucoup d'opinions sur cette personne qui lutte contre Jacob. Hein, c'est quand même un passage qui laisse l'étudiant de la Bible un petit peu pantois. Hein. C'est mystérieux ce qui se passe au cours de cette nuit-là. Alors je dirais que le personnage qui lutte contre Jacob est un personnage mystérieux. Ça va ? Bon, hein, je ne me mouille pas trop. Hein. Parce que dans ce passage, qu'est-ce qu'on lit ? On lit que c'est un homme qui s'est battu contre Jacob. Un homme qui s'est battu contre Jacob. Et pourtant, vers la fin de la lutte, l'homme dit « Tu t'es battu avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. » Alors, c'est Dieu, c'est un homme, c'est qui exactement qui s'est battu contre Jacob? On ne peut pas trop savoir. Il y a un prophète, dans l'Ancien Testament donc, Osée, qui nous a donné peut-être un élément de réponse. Je vous le livre et vous me direz ce que vous en penserez après le culte. Dans le sein maternel, nous dit Osée au chapitre 12, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Alors pour Osée, c'est clair qu'il s'est battu contre Dieu. Jacob s'est battu contre Dieu. Et ensuite, il nous dit, il lutta avec l'ange. Ah, Osée, tu dis Dieu ou l'ange? Alors dans l'Ancien Testament, certains commentateurs disent qu'il y avait un ange, l'ange de l'Éternel, qui était un ange spécialement, on va dire, désigné par Dieu pour le représenter. Il est possible que Jacob se soit battu contre un ange. Un ange qui représentait, qui avait la mission de représenter Dieu, un messager d'une manière spéciale qui représente Dieu et dont on voit souvent des apparitions dans l'Ancien Testament, l'ange, le fameux ange de l'Éternel. Il est possible. Il est possible que ça soit donc un ange. Et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Ça m'interpelle. Parce que ce n'était pas vraiment marqué dans le texte. Et si j'avais dû relire ce texte-là, j'aurais dû le relire avec le ton en pleurant. Par exemple, quand j'ai lu tout à l'heure, Jacob l'interrogea en disant « Je t'en prie, indique-moi ton nom », on devrait pleurer. On devrait entendre quelqu'un qui crie et qui pleure en posant cette question. Vous voyez, ça donne, hein, ce passage donne une profondeur à cette lutte. Jacob est en fait en train de crier et de pleurer alors qu'il se bat. Et pourtant, il a été déclaré vainqueur. Il est difficile ce texte, vous ne trouvez pas? Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Tiens, c'est l'épisode que je vous avais montré 20 ans auparavant. Il l'avait trouvé à Bethel. Donc il y avait eu un premier contact avec Dieu ou avec cet ange de l'Éternel à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Tiens, voilà, Jacob avait demandé quel est ton nom et Osée ici dit son nom est l'Éternel. Peut-être un élément de réponse. Peut-on dire, peut-on avancer que Jacob s'est vraiment battu avec Dieu? Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Et donc, Osée prend cette scène de la lutte entre Jacob et Dieu pour parler à Israël et leur adresser un appel à la repentance. Reviens à Dieu, il dit. Reviens, rappelle-toi de ces choses et reviens à Dieu. Voyez? Donc souvent, Israël a été appelé Jacob par les prophètes pour leur rappeler leur origine et cette lutte que Jacob a eue avec Dieu. Jacob, Israël. Quel nom, hein? Donc, contre qui Jacob s'est-il battu? Contre un homme, c'est une possibilité, un homme qui était envoyé par Dieu, quel lutteur, entre parenthèses, contre un ange, l'ange de l'Éternel, c'est une autre possibilité, ou contre Dieu lui-même. Vous choisissez une des trois écoles, elles sont apparemment justes, possibles, toutes les trois, j'ai mon opinion personnelle, Osée l'avait apparemment aussi. Toujours dans l'identité des lutteurs, quelle est l'identité à ma gauche? Sur le ring, maintenant, quelle est la personne qui se bat contre Dieu ou contre l'ange de l'Éternel? Et donc, là, si on n'a pas de nom du tout pour le premier lutteur, on a deux noms pour le deuxième. On a Jacob, Israël. C'est vrai que pendant cette lutte extraordinaire, Jacob va changer de nom, ou plutôt l'ange ou Dieu va lui donner un autre nom, et il va être nommé Israël. Alors, dans l'Ancien Testament, comme dans toute la Bible, le nom est toujours lié à l'identité. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit la signification de ces noms, on comprend beaucoup plus le changement de nom. Jacob, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui supplante. En bon marseillais, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui arnaque, l'arnaqueur. Ça pourrait être traduit comme ça. Celui qui trompe. D'autres aussi peuvent dire, Jacob peut être traduit en hébreu par le tordu. Il faut quand même avoir un certain courage, enfin une certaine insouciance en tant que parent pour appeler son enfant le tordu, quoi. Vous voyez, sur le faire-part, ça ne fait pas, hein. Le tordu. Et c'était lié avec son identité. Quand on voit son parcours, il a eu un parcours tordu, cet homme. il a vraiment trompé ses meilleurs amis, son frère, etc. Il a toujours essayé de ruser. Il me fait penser à certains gamins dans les cités, vous savez, quand vous allez faire des fois de l'évangélisation dans les cités, on fait ça actuellement à Marseille, vous pouvez prier pour ça une fois tous les 15 jours. Et des fois, on offre quelque chose à un gamin et tu lui donnes, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il le prend de ta main en l'arrachant, il s'en va en courant, alors que tu lui donnes. J'ai l'impression que Jacob, il a fait ça avec Dieu toute sa vie. Dieu lui a donné des choses et Jacob les a volées. Et c'est un petit peu comme si Dieu disait, hey, je voulais te les donner tout simplement. Mais Jacob a été tordu, il a volé une bénédiction que Dieu voulait lui accorder de toute manière. Il a toujours essayé de prendre ce que Dieu désirait lui donner. Il a agi avec Dieu d'une façon tordue. Lors de cette lutte, il change de nom et Dieu change donc Jacob le tordu et l'appelle Israël. Israël a une autre signification, cela veut dire celui qui lutte avec Dieu. Ou aussi, d'une manière ambiguë, cela peut être traduit par « celui qui lutte contre Dieu ». Alors, avec Dieu ou contre Dieu? Parce que les deux traductions sont possibles. Et si vous regardez bien l'histoire du peuple d'Israël, quelquefois, ils ont lutté avec Dieu à leur côté, des fois, ils ont lutté contre lui. D'où les paroles des prophètes comme Osée, par exemple. « Et toi, reviens à l'Éternel. » À ce moment-là, Israël luttait peut-être contre Dieu, et non pas avec lui. Donc voilà, Jacob Israël, deux noms pour le lutteur à ma gauche. Voilà pour l'identité des lutteurs. Encore un mot d'explication avant de voir des applications pratiques pour nous de ce texte difficile. La nature de la lutte. Quelle est cette lutte? Certains pensent que c'est une lutte symbolique. Comme si Jacob s'était battu dans sa tête, tu sais, ou dans son cœur. Ça, c'est peut-être une lecture post-moderne, mais je peux vous assurer que les gens qui lisaient cette histoire à l'époque où elle a été écrite, ils n'avaient pas les mêmes pensées abstraites qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Ils ont lu ça comme une vraie lutte, et celui qui a écrit ça dans un style historique, ça a été une vraie lutte. C'est très mystérieux, et d'autant plus mystérieux, qu'effectivement, il y a eu lutte, et cette lutte a duré toute la nuit. Ce n'était pas une lutte mystique, ce n'était pas une lutte abstraite, c'était une lutte physique. Et d'une intensité remarquable. Ceux qui ont fait des sports de combat ou ceux qui voient vous savez, 3 minutes ou 6 minutes pour les champions, les grands champions, c'est maximum aux Jeux Olympiques, hein, en lutte. Là, ça a duré toute la nuit. C'est une lutte physique, mais avec une dimension surnaturelle. Un événement historique avec une dimension surnaturelle. La nature de la lutte. Je voudrais encore dire un mot sur la nature de la lutte avant d'arriver aux applications. Parce qu'il y a une phrase énigmatique. Ce personnage mystérieux dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » On peut se poser la question, mais alors qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Est-ce que c'est Jacob ou est-ce que c'est Dieu? Si on dit que c'est Dieu qui s'est battu contre Jacob, et Dieu qui dirait à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Comment ça? On pourrait dire, et certains enseignent ce texte formel en disant qu'ils disent, voilà, c'est un exemple de prière persévérante, il faut y aller, il faut aller avec Dieu, il faut vraiment essayer de négocier ou de pas lâcher Dieu tant qu'il ne nous a pas bénis. C'est une mauvaise lecture de ce texte. Pourtant, Dieu dit, laisse-moi partir, car le jour se lève. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, laisse-moi partir comme une prière de Dieu à Jacob. Il y a peut-être une autre explication qui pourrait être plus rationnelle, c'est elle nous est donnée par le texte lui-même, car le jour se lève, car le jour se lève. Laisse-moi partir car le jour se lève. Que va-t-il se passer si le jour se lève? Et voilà peut-être un élément d'explication qui est écrit par le même auteur, parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, c'est Moïse qui a écrit l'Exode, et Moïse nous dit, un livre plus loin, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Péniel veut dire face de Dieu. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Ce qui veut dire que si le jour s'était levé, nous n'aurions pas eu un homme qui boitait, mais on aurait eu un cadavre. Car on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Et donc cette phrase de Dieu, c'est une phrase de grâce. Laisse-moi partir car le jour se lève. Autrement dit, je ne désire pas te tuer. Je ne désire pas que tu perdes la vie dans ce combat. Alors c'est abondamment attesté par d'autres passages. Le Fils de Dieu lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Nous pouvons connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore équipés pour le voir face à face. Nous pourrons le voir un jour face à face, après la résurrection. Mais pour le moment, aucun homme, aucune femme ne peut voir Dieu face à face et vivre. Ce qui est encore attesté par Ézéchiel. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu, lorsqu'il lutte avec Jacob, ne désire pas le tuer. Il désire que Jacob vive. Vous voyez, ça éclaire la nature de la lutte. Est-ce que vous pensez que ces petites explications sont utiles pour ce texte? Hein, ça éclaire plus le texte et ça laisse encore plus admiratif devant ce qui s'est passé. Maintenant, je voudrais terminer par quelques applications pratiques pour nous. Je prendrai trois applications pratiques de ce texte. Quelques applications. Alors, je ne veux absolument pas dire, je ne pense absolument pas, je pense avoir assez souligné, je ne pense pas que ce texte soit un texte symbolique. Je crois que c'est un texte qui est historique. Ça s'est vraiment passé. Je pense aussi qu'on peut vraiment comprendre la signification des épisodes de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. C'est ce que je disais au début. Et donc, je vous propose d'aller jusqu'au fond des choses avec la lumière que nous donne le Nouveau Testament maintenant et de voir la signification de cette histoire et une application spirituelle que le Nouveau Testament nous permet de faire pour nous aujourd'hui. Alors, il est évident que ce texte a été pris par nombre de commentateurs comme le moment. La lutte de Jacob avec Dieu a été le moment où Jacob est vraiment devenu un homme de Dieu. Son nom a été changé. À partir de ce moment, il devient Israël. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la vraiment naissance d'un homme de Dieu. Et mon premier point en application pourrait être celui-ci pour nous. Il y a une différence entre être éclairé et être sauvé. Vous vous rappelez que Jacob avait eu une expérience avec Dieu 20 ans plus tôt. Il avait eu un rêve. Chapitre 28, relisez ce passage qui est extraordinaire aussi, l'échelle de Jacob. Chapitre 28. Quelques chapitres plus loin, 20 ans plus tard, Dieu rencontre Jacob et là il y a vraiment naissance d'un homme de Dieu. Il y a eu deux expériences dans la vie de Jacob. Une expérience où Dieu l'a éclairé et où rien n'a changé dans sa vie après. Parce qu'après ce rêve, Jacob continue d'être l'arnaqueur, le trompeur trompé aussi. Sa vie spirituelle est proche du zéro absolu. Il parle pratiquement pas de Dieu, sauf pour le boulot, pour l'argent. Et quand il parle de Dieu, il le lit toujours avec le terme « bénédiction » en hébreu « baraka ». Il parle de Dieu comme l'homme de la rue, l'auto, la prospérité, la santé, ah, si Dieu nous permet d'avoir la santé. C'est la vie spirituelle de Jacob pendant 20 ans, proche du zéro absolu après ce rêve. Pourtant, il a été éclairé par Dieu. Mais c'est 20 ans plus tard qu'il va vraiment devenir un homme de Dieu et qu'il va vraiment rencontrer Dieu. Et il y a une différence dans l'existence, dans la vie d'un homme, d'une femme, entre le fait d'être éclairé par Dieu et le fait d'être sauvé. Combien de gens on entend, ils ont été éclairés lors d'un camp. Vous voyez ? Ils ont été à un camp, ils ont entendu quelqu'un qui parlait, ça les a touchés émotionnellement, oh, c'était vachement fort. Et puis plus tard, quand ils postulent pour le baptême et qu'ils font leur témoignage, bien des années plus tard, ils se rendent compte que à ce camp-là, c'était peut-être pas le moment où ils ont été sauvés, mais le moment où ils ont été éclairés par Dieu. Et la conversion peut-être s'est passée plusieurs années plus tard, c'était peut-être même moins émotionnel, et c'est pourtant là que Dieu les a rencontrés et leur a donné un nouveau nom. Alors je voudrais vraiment faire cette différence entre être éclairé et être sauvé. Et la Bible nous permet, dans le Nouveau Testament, par exemple, de faire cette différence. Dans Hébreux, par exemple, vous pouvez lire ce passage dans Hébreux 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part à l'Esprit Saint, donc vous voyez, Dieu a vraiment parlé à ces hommes-là. Hein. C'était pas une expérience subjective. Même par l'Esprit Saint, Dieu leur a parlé. Qui ont goûté la bonne parole et les puissances du monde à venir et qui sont tombés. Il est impossible de les amener à nouveau à un changement radical, car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Là, nous sommes en présence de gens qui ont été éclairés par Dieu et qui ont choisi de lui tourner le dos. Il se passe quelque chose de terrible dans le cœur humain que Dieu seul peut voir un endurcissement qui ne permet plus à la personne de se repentir, et c'est dramatique. Voilà pourquoi, quand on a été éclairé par Dieu, eh bien, il ne faut jamais différer. Dès que Dieu nous parle, c'est maintenant le moment du salut. Si tu as compris l'évangile, si Dieu t'a parlé, mais bon sang, qu'est-ce que tu attends? Parce que si tu attends, qui dit que ton cœur ne va pas être endurci au-delà de toute mesure et qu'il sera ensuite impossible pour ton cœur et pour ton âme de te repentir? L'être humain n'est pas une machine et il ne faut pas jouer avec la conscience. Alors ça, c'est quand un homme a été éclairé. Et voilà un autre passage qui parle du salut. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Parce que quand on s'est converti, on ne peut plus perdre son salut. Et donc les deux textes ne doivent pas être confondus. Quand on est éclairé et quand on est sauvé, c'est deux choses différentes. Jacob a été éclairé à Bethel, il a été sauvé à Péniel. Où est ton Bethel? Où est ton Péniel dans ta vie? Est-ce que tu pourrais expliquer dans ton témoignage peut-être ces choses-là et retrouver ces jalons dans ton itinéraire spirituel? C'est un super exercice à faire. Dieu t'a-t-il éclairé? As-tu été sauvé? C'est des questions profondes. Deuxième application que j'aimerais pouvoir faire dans ce texte, c'est Jacob reçoit une nouvelle identité. Quand quelqu'un rencontre Dieu, il reçoit aussi une nouvelle identité. Et le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Quand quelqu'un met sa confiance en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, quand quelqu'un croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité pour sa justification, alors il reçoit une nouvelle identité. C'est un miracle qui vient de Dieu. Et le Nouveau Testament est très clair, vous avez ce passage qui est incontournable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut apprendre ce passage par cœur parce qu'il est merveilleux. Ça fait partie de notre nouvelle identité. Un autre passage, un petit peu plus symbolique et pourtant tout aussi vrai, dans l'Apocalypse. Je vais le lire. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc il est clair que quelqu'un qui rencontre Dieu reçoit une nouvelle identité. Une nouvelle identité connue de lui seul. Je me rappelle quand je me suis converti, j'avais 23 ans, mes amis, ceux qui me connaissaient bien, ils me disaient, c'est drôle, c'est toi Philippe, et en même temps, t'as changé. C'était très difficile d'expliquer que je venais de recevoir une nouvelle identité, que c'était toujours moi. Et qu'en même temps, ben oui, Dieu m'avait changé, et j'avais une autre identité. Alors quelle est cette autre identité, de façon beaucoup plus pratique? Eh bien, cette autre identité, elle dépend des choses que Dieu a fait dans notre vie au moment où il nous a rencontrés. Par exemple, quelqu'un qui rencontre Dieu en Jésus-Christ est quelqu'un qui a été pardonné. Ça, c'est très important. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Quelqu'un qui a rencontré Dieu est quelqu'un qui est pardonné, et qui se sait pardonner. Les cabinets des psychiatres et des psychologues sont pleins de gens qui viennent les voir à cause de problèmes de culpabilité. C'est probablement un des problèmes les plus aigus du cœur humain. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur est quelqu'un qui sait qu'il a été pardonné. Et si ça, ce n'est pas une identité nouvelle dans ce monde de culpabilité, alors qu'est-ce qu'une identité nouvelle? Vous êtes stigmatisé par le pardon de Dieu. Vous êtes pardonné. On pourrait presque lire ce texte au début d'un culte, tellement il est beau et nous permet de louer le Seigneur. Mesurez le pardon. Et les apôtres, quand ils parlaient de la nouvelle identité, ne s'arrêtaient pas là. Parce que, un verset plus loin, donc ça c'est Actes 13-18, mais il me semble que un verset plus loin, Actes 13, 39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Nous avons été justifiés. Ça, c'est moins enseigné souvent. On sait qu'on a été pardonné. Justifié, c'est encore plus fort que pardonner. Parce qu'on peut être pardonné comme, par exemple, quelqu'un qui a fait une mauvaise action. Et alors, ça va, tu as fait 10 ans de tôle. Tu sors de tôle, ça va, maintenant, tu as payé ta dette. Mais partout où tu vas chercher de l'emploi, c'est marqué au fer rouge dans ton CV. On ne te confiera plus de responsabilité parce que tu as fait 10 ans de toll. Tu as été pardonné par la société parce que tu as payé ta dette. Mais justifier, c'est autre chose. C'est casier judiciaire vierge. Tu as été justifié. Quand tu t'approches de Dieu, tu n'es pas un esclave pardonné. Tu es quelqu'un de justifié, quelqu'un qui a le statut, qui a été déclaré juste dans le tribunal divin. Alors ça te donne beaucoup d'assurance dans un moment de prière, par exemple. Si tu mesures la justification, ça veut dire que tu rentres dans la présence de Dieu en tant que justifié. C'est énorme. Vous faites partie du peuple des justes. Et vous avez la justice de Christ. C'est pas énorme? C'est pas une nouvelle identité, ça? Je n'étais pas justifié avant de rencontrer le Seigneur. Je l'ai été après. Cette nouvelle identité consiste aussi pratiquement dans le fait que nous avons reçu l'Esprit Saint. Tout ça est arrivé en une microseconde à la conversion, comme ça. Mais dans sa parole, le Seigneur déploie les choses et nous les explique. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le signe de la nouvelle alliance. C'est le miracle le plus grand que Dieu ait fait dans toute l'histoire de l'humanité. Il avait donné le signe de la circoncision à Abraham comme signe de l'alliance. Ou avant, il avait donné le signe de l'arc-en-ciel à Noé. Nous avons reçu un signe extraordinaire. Le Saint-Esprit. Qui habite dans les racines de notre être. Qui vient habiter dans les racines de notre être à la conversion. Et qui fait de nous le temple du Saint-Esprit. Individuellement. Et en tant que communauté. Ça, c'est pas une nouvelle identité. Ralph Chalice disait, quand tu marches dans la rue, tu peux être fier. Parce que Dieu, il marche entre tes deux épaules. Dans ton cœur. Tu te rends compte? Tu portes le Seigneur. Mais en vrai. Pas juste sentimentalement. La présence de Dieu en toi. Ça, c'est pas une nouvelle identité. Et puis, je terminerai parce que, on pourrait encore en dire. Nous avons été adoptés, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, ô bon Père ». Ça veut dire que nous avons été adoptés par Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu peux dire « Papa », tu peux dire « Père ». Il est ton Père Céleste. Je ne sais pas quel Père tu as eu, peut-être un Père super ou un Père qui n'est pas digne d'être appelé Père, mais Dieu est le Père parfait. Et il est ton Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Et la procédure d'adoption, elle a été difficile. Aucune procédure d'adoption n'est facile. Elle a coûté du sang. Elle a coûté des larmes. Il a rencontré des autorités complètement compromises, Seigneur, quand il est venu sur la terre. Et pour signer cette déclaration d'adoption, ça a coûté la croix. Mais nous avons été adoptés. On peut avoir un enfant par accident. On ne l'attendait pas, notre quatrième. On l'aime aujourd'hui, hein. On l'a toujours aimé dès qu'on a su qu'elle arrivait. Hein. Mais on ne l'attendait pas, ça a été une surprise. Mais on ne peut pas avoir un enfant adopté par surprise. Un enfant adopté est toujours un enfant désiré. Vous avez été désiré par Dieu depuis la fondation du monde. Vous avez été adopté. Ce n'est pas une nouvelle identité. Quand ma fille entre pour me demander quelque chose, et je suis en train de lire quelque chose dans le salon, ou je suis à mon ordinateur ou quoi que ce soit, elle ne me dit pas... « Cher Père, pourrais-je avoir l'immense privilège de te demander si tu pouvais m'accorder quelques euros afin que je puisse aller au cinéma avec mes amis ?» Elle me dit « Papa, je peux aller au cinéma ?» Hein, l'audace des enfants de Dieu, la simplicité des enfants de Dieu qui entrent dans la présence de leur Père pour parler à Dieu parce qu'il est leur Père. Eh bien, on a ce privilège. On a ce privilège. Dernière chose que je voudrais dire, tout cela a été par grâce. Cette lutte, vous vous rappelez? Laisse-moi partir car le jour se lève. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire pour que Jacob meure? Rien. Si Dieu n'avait rien fait, Jacob serait mort. Si Dieu n'avait rien fait, s'il avait attendu le dernier jour, vous savez, le jour de l'Éternel, ben, il n'y aurait aucun de nous qui aurait été sauvé. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire s'il avait voulu qu'on aille tous en enfer? Réponse? Rien. Souvent on entend « Choisis Jésus-Christ dans ton cœur ». Je suis devenu chrétien parce que j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Et c'est vrai peut-être que ça t'a semblé être ton choix au moment où c'est arrivé. Mais tu sais pourquoi tu as choisi Dieu ? C'est parce que Dieu t'a fait la grâce de vouloir lutter avec toi. Sinon, tu n'aurais même pas pensé à Dieu. Dieu n'aurait rien fait, le jour de l'Éternel se serait levé et avec horreur, tu aurais constaté que tu avais devant toi une éternité loin de la présence de Dieu. Et ça aurait été trop tard. Mais Dieu t'a fait la grâce de lutter contre toi, de lutter avec toi. Et donc, ce qui t'est arrivé, ce choix, cette conversion, c'est une grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas contesté avec toi, tu ne te serais pas soucié de lui. Mais voilà, Dieu, il a voulu convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, et à un moment donné, il a voulu lutter avec toi aussi. Et cette lutte qu'il a eue avec toi, ça a été une lutte pour ton salut. Heureusement qu'il a lutté avec toi, Dieu. Et puis le Seigneur, il tire le rideau et il nous explique, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Petit clin d'œil à ceux qui sont allés au congrès, ces deux versets ont été commentés dans des contextes différents. Hein, la chambre haute, Jean, Seigneur lui-même, les paroles du Seigneur. Nous avons été choisis par le Seigneur. Dieu nous a fait la grâce de lutter et de contester avec nous pour que nous ayons la possibilité de lui demander de nous bénir. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il est intervenu dans nos vies. Et je suis heureux en tout cas qu'il l'ait fait avec la mienne. Dernière chose, et je vous quitte là-dessus. Et maintenant, il nous est dit, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Ça c'est une autre histoire. Il boitait de la hanche, Jacob. Jacob est décrit dans la mythologie hébraïque comme un géant. Parce que c'est lui qui lutte contre Dieu. C'est lui qui, seul, il peut bouger la pierre pour que les troupeaux, ils boivent. C'est un lutteur, Jacob. Il est décrit comme un homme fort. Et il est un homme fort. J'aurais pas aimé me battre contre Jacob. C'était vraiment un costaud. Mais voilà, après la lutte avec Dieu, il boite. Luther a dit, les grandes natures, comme Jacob ou l'apôtre Paul, une fois brisées, restent brisées. Luther. Daniel Herman, un autre géant, a dit, on peut décrire un chrétien ainsi. Un chrétien est un homme maîtrisé, c'est-à-dire un homme qui a un maître, un homme, une femme, maîtrisé. Un chrétien est quelqu'un qui a été maîtrisé par Dieu. Jacob a été maîtrisé par Dieu. Et il va devoir s'appuyer sur une béquille pour marcher, lui l'homme fort, qui est un énorme symbole peut-être de quelque chose que je ne peux pas développer maintenant et qui est la vie de sanctification, où nous nous appuyons sur Dieu pour marcher. On reconnaît un chrétien et une chrétienne à ceci. Un chrétien, une chrétienne est un homme, une femme maîtrisée. C'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu pour chaque pas de la vie. Quelqu'un a fait cette prière pendant le culte. On s'appuie sur Dieu. Quelqu'un, un jour, a dit à un évangéliste, « Ah, votre Jésus-Christ, c'est juste une béquille. Une béquille pour les faibles. » Et vous savez ce que cet évangéliste, il a répondu ? Il a répondu, « Vous avez raison. » Jésus-Christ est une béquille pour les faibles. Mais vous savez quoi? J'ai regardé attentivement autour de moi. Et j'ai regardé. Tout le monde marche en s'appuyant sur une béquille. Il y en a qui s'appuient sur l'alcool. Il y en a qui s'appuient sur leur travail. Il y en a qui s'appuient sur leur réputation. La différence entre ma béquille et toutes celles que j'ai vues, c'est que la mienne, elle est éternelle, elle ne brisera pas. Jacob s'appuie sur Dieu. Et la suite de la vie de Jacob vous montre une vie en transformation. Je vous souhaite toute la transformation que Dieu va rendre possible dans votre vie. Parce qu'à chaque pas de votre vie, maintenant, nous sommes appelés tous et toutes à nous appuyer sur Dieu pour marcher. Et ça, c'est une autre histoire. Merci de votre attention. Amen.